Chapitre 25e. Je retrouvai Roger à Maxotte. Au fond, j'aurais préféré me rendre directement à Paris. Je n'étais pas du tout rassuré d'aller habiter à Bruxelles chez l'oncle de Roger. Je craignais que la maison ne fût surveillée. Quand je laissai entendre à Roger qu'il vaudrait peut-être mieux de ne pas nous attarder, il eut un haut-le-corps. Roger ne s'inquiétait pas d'avance. Il pensait qu'on se débrouillait toujours. Je le pensais aussi. Mais l'avenir m'inquiétait plus qu'il ne l'inquiétait lui. On ne pouvait jamais savoir. Roger me dit qu'il avait toujours été entendu que nous irions passer quelques jours à Bruxelles, que c'était pour cela qu'il était venu m'attendre à Maxotte. Son oncle nous donnerait des vêtements, de l'argent. J'observais que cet oncle pouvait ne pas être content de nous voir arriver à deux, et que cela me gênait de m'imposer. Roger me répondit qu'il n'avait jamais vu un homme comme moi, que c'était inouï, dans une situation comme la nôtre, de se laisser arrêter par de pareils scrupules. Nous arrivâmes dans les faubourgs de Bruxelles vers 6 heures du matin. Sur les murs couverts d'inscriptions, du goudron avait été jeté. La pluie commençait à tomber. Je voulus donner à Roger mon imperméable. Il en fut surpris. Et moi, avec quoi allais-je me couvrir? Mais j'y tenais absolument. J'insistais tellement que Roger ne put faire autrement que de l'accepter. Au bout de quelques minutes, en me voyant recevoir la pluie, il voulut me le rendre. Je refusai. Il se fâcha. J'étais grotesque de vouloir me découvrir pour lui. Si je continuais à ne pas vouloir reprendre mon imperméable, il allait le donner au premier venu. Le jour ne s'était pas encore levé. Nous aurions bien aimé boire quelque chose de chaud, mais c'était impossible. Des heures réglementaient tout, si bien que les commerçants ne cherchaient plus à gagner de l'argent. Personne ne travaillait. Ce fut un grand étonnement pour moi quand je vis plus tard un petit artisan se donner le mal de fabriquer des croix de Lorraine. Les magasins ne s'ouvraient qu'aux heures les plus bizarres. À notre grande surprise, nous vîmes passer un tramway éclairé, lavé comme avant la guerre et plein d'ouvriers se rendant à leur travail. Nous marchions droit devant nous. C'était la première fois depuis ma mobilisation que je me trouvais libre dans une grande ville. Nous ne voulions pas aller tout de suite chez M. Roger. Une arrivée si matinale eût fait mauvais effet. C'était bien assez de notre accoutrement. Nous pensâmes que dans notre situation, nous pouvions cependant nous permettre ce qui était interdit à un Bruxellois, c'est-à-dire de frapper à une porte ou à une fenêtre et de demander un bol de liquide chaud. Nous suivions un long boulevard. Un carrefour, il y eut un tel enchevêtrement de câbles qu'on se serait cru sous un filet. J'étais si nerveux que je n'avais plus seulement peur de la police, mais d'accidents auxquels je n'aurais jamais songé avant, comme d'être électrocuté à la suite d'un affaissement de ce réseau de câbles. Je fis part à Roger de ma crainte. Il me répondit « Tu deviens idiot ». Il y avait maintenant des magasins partout. Ils étaient fermés, et ceux qui ne dissimulaient aucun rideau de fer ne découvraient que des étalages de boîtes vides. Nous prîmes une rue transversale. Devant une petite maison éclairée, nous nous arrêtâmes. Dès que nous eûmes fait comprendre à travers les vitres que nous voulions nous restaurer, on nous fit signe de partir sans faire aucune distinction entre nous et de vulgaires mendiants. Ce fut ma première déception. J'avais cru qu'on aurait tout de suite deviné qui nous étions. J'avais cru que la façade inchangée de la vie n'était destinée qu'aux Allemands, que derrière nous étions tous unis, que partout nous irions dans cette grande ville, on nous accueillerait comme des héros. Le jour commençait à poindre. Nous nous assîmes sur un banc, au milieu d'une petite place déserte où devait se tenir un marché, car il y avait des trous dans le macadam, des barres de fer, des toiles goudronnées, des planches à charnières. J'étais dans un de ces moments où je n'aurais opposé aucune résistance si on avait surgi pour m'arrêter. Plusieurs fois déjà, je m'étais trouvé dans cet état sans que rien fût arrivé. C'eût été vraiment trop de malchance que la police tombât sur moi en un tel moment. Roger me frappa sur l'épaule. Comme je ne bougeais pas, il frappa plus fort. Je lui dis qu'il me faisait mal, que je n'avais pas envie de rire. Il eut un geste de mauvaise humeur. Je compris alors qu'en m'abandonnant ainsi à des idées noires, je n'agissais pas en bon camarade. Je me levai en disant « C'est passé », bien que rien ne fût passé. J'affectais d'avoir surmonté une défaillance, d'avoir repris goût à la vie. À mon tour, je frappai Roger, puis je me mis à plaisanter. « On a des moments comme cela, » observai-je comme je l'avais entendu faire par ceux de mes camarades qui aimaient à dire « C'est fini, parlons d'autre chose. » Genre qui m'avait toujours paru ridicule, comme si un véritable désespoir pouvait passer si vite. « C'est fini, » répétai-je encore plusieurs fois. Nous nous dirigeâmes lentement vers le quartier où habitait l'oncle de Roger, un quartier moderne de belles maisons qui faisait penser à Paris, quoique à certains détails on sentît l'étranger, la province, l'imitation. Après tout ce que je venais d'endurer, c'est arrivé dans des rues calmes, bourgeoises, ayant un faux air d'Auteuil, me remontait. J'étais vraiment sur le chemin du retour. Quand 8 heures sonnèrent, Roger se décida à aller frapper à la porte de son oncle. Je n'avais qu'une idée, me laver et me coucher, mais il fallut parler. Je croyais entrer dans une maison et rien d'autre. Je compris très vite que M. Roger n'interprétait pas l'acte si simple de m'héberger de la même façon que moi. Cet homme, un industriel, ce qui ne disait rien, était d'une médiocrité, d'une petitesse d'âme comme je n'en avais jamais vu avant. À moins que la misère physique et morale où je me trouvais ne m'eût rendu plus visible un état d'esprit que j'avais déjà dû rencontrer souvent sans y prêter attention. Je prenais de plus en plus l'habitude de juger les gens non pas tels qu'ils étaient, mais tels que des souffrances comme celles que nous avions endurées eussent dû les faire. Au lieu de nous recevoir comme des évadés transis et affamés, M. Roger nous reçut comme si notre évasion avait été une chose difficile, certes, mais dont la difficulté avait résidé surtout dans le fait de nous cacher habilement, de surprendre les Allemands, de nous renseigner avec ruse, d'avoir su éveiller des sympathies en cours de route. Il nous considérait comme d'habiles diplomates, mais tout ce qui était le vrai drame, tout ce que nous avions enduré, lui échappait vraiment. Je m'aperçus bientôt que c'était en outre un imbécile, qui avait une ambition bizarre dont on ne s'expliquait pas la raison ni l'intérêt. L'ambition de paraître n'avoir pas changé à cause de la guerre, de la défaite, de l'occupation, d'être resté le même au milieu de cette catastrophe, comme si c'était l'indice d'une grandeur extraordinaire et la preuve d'une extraordinaire force de caractère. Il voulait nous parler. Il avait beaucoup de choses à nous demander. Roger me fit un clin d'œil. J'admirais que mon camarade pût oublier à ce point notre état et se moquer de son oncle à un moment où je ne pensais qu'à dormir. Monsieur Roger nous conduisit dans un bureau sombre auquel des tentures, des cadres dorés et des bronzes donnaient un aspect de salon cossu. Je remarquai tout de suite, comme je le fis tant de fois par la suite, qu'un divan facilement transformable en lit se trouvait dans la pièce. L'oncle nous pria de nous asseoir. Roger me fit un nouveau clin d'œil. Il avait d'ailleurs beaucoup changé depuis 1 heure. Il semblait ne plus rien craindre. Nous nous assîmes bien sagement. Monsieur Roger s'assit à son tour sans dire un mot, déplaça le sous-main au buvard pelucheux pour s'accouder sur la table comme on déplace une assiette après un déjeuner. Puis il se mit à faire quelques phrases sur la joie qu'il éprouvait de voir des jeunes gens ne pas hésiter à risquer leur vie. Il s'adressa à son neveu et à moi comme si nous étions égaux dans son affection, comme si nous étions tellement unis par ce que nous venions de faire qu'on en oubliait la parenté. C'était vraiment pénible de bêtises. Je crus qu'il allait enfin aborder les questions pratiques, mais pas du tout. Il parla de rancunes de famille, de sa femme, des 27 ans qu'il avait passés à Paris, des raisons qui l'avaient amené à se fixer à Bruxelles. J'étais si fatigué que je m'endormis.